Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 31e épisode, nous parlerons du syndrome d'Asperger en compagnie d'Elio, qui s'est récemment fait diagnostiquer cette forme d'autisme léger. Loin de constituer 100% de sa personne, Elio perçoit le fait d'être Asperger comme un simple trait de personnalité qui ne serait pas plus important qu'un autre, une vision qu'il nous expliquera en détail. Nous parlerons également du chemin de longue haleine qui l'a mené vers ce diagnostic final, ainsi que des réactions, encourageantes comme négatives, des personnes avec qui il a pu en parler par la suite. L'hypersensibilité au cœur de ce syndrome, Elio la décrit tantôt comme un enfer, tantôt comme un paradis, que ce soit sur le plan créatif, professionnel, comme relationnel. Nous discuterons également de tout cela. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 31e épisode. Très bonne écoute à tous.
Univers alternatif.
Comment vas-tu, Elio ?
Écoute, je vais très bien. Il fait très chaud,
oui.
Mais c'est très agréable. Donc, en l'occurrence, ça va bien.
Okay. Comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui te connaîtrait pas ? Tu commencerais par quel aspect de ta personne ?
C'est vrai que c'est très français de dire ça, mais on commence toujours par parler de son travail. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une étiquette qu'on se met directement parce que t'as l'impression que c'est la seule chose que t'as à raconter sur toi.
Ouais, c'est comme ta valeur.
Ma valeur ajoutée, ouais. Mmh. Puis en même temps, je suis fier, tu vois. Je travaille dans la musique. C'était un rêve d'ado, tu vois, de travailler pour soit des maisons de disques, soit sur des tournées. Là, en l'occurrence, je travaille avec des artistes européens qui souhaitent exporter leur musique au Québec, voire au Canada. J'ai officiellement lancé mon entreprise il y a quelques temps. Et voilà, j'ai un joli catalogue d'artistes qui me ressemble bien, dont je suis très fier, et ça occupe pas mal mes journées. C'est plutôt comme ça que j'aurais tendance à me présenter.
Ce serait ta profession, et dans ta profession, il y a ta passion.
Ouais, voilà. La profession est liée à la passion. Je dirais pas que c'est assez rare, mais je trouve que c'est une chance quand même de pouvoir faire un métier qui est lié à une passion, qui est lié à quelque chose que je faisais quand j'étais petit, puis adolescent, et qui est devenu un métier.
Toujours dans, tu sais, ce domaine-là de comme se décrire et juste décrire ce qu'on voit, et ce qu'on ressent, et ce qu'on vit, tu mettrais quel mot, quelle définition sur le syndrome d'Asperger ?
Pour moi, je trouve qu'effectivement, le terme de syndrome, c'est... Il y a toujours un côté péjoratif, t'as l'impression que t'as chopé le truc au détour. Tour d'un hiver froid ou je ne sais guère.
D'une année sombre.
Tu sais, ça sonne dépression, ça sonne plein de choses, plein de mots qui sont pas très jolis. Moi, je définis toujours Asperger comme un portrait. Moi, je vois ma vie, en fait, je me décrirais comme un camembert de Pictionary. Je sais pas si tu te souviens le jeu quand on était petit, enfin pas forcément petit, mais tu composais des couleurs en fonction réponses que tu gagnais. Et moi, je vois vraiment ma vie comme un camembert de plein de couleurs différentes, où chaque part a son importance, mais n'a pas plus d'importance qu'une autre part à côté, tu vois. Il y a le côté artistique, il y a le côté expatrié. Et Asperger, c'est également une petite part de ce que je suis, tu vois, qui doit pas prendre plus d'importance que le reste. C'est une clé de lecture aussi. J'ai toujours tendance à mettre beaucoup de poésie quand je dois essayer de décrire ce syndrome, parce que c'est pas quelque chose qui est grave, c'est quelque chose avec lequel on vit très bien. C'est juste que de temps en temps, ça te met des petits bâtons dans les roues, ça peut créer certains blocages, mais plus le temps passe, plus tu apprivoises ce syndrome, et puis t'essaies d'en faire une force.
Là, j'ai comme utilisé le mot syndrome, mais qu'est-ce qui qualifierait ça de façon factuellement vraie ? Est-ce que c'est justement un syndrome ? Est-ce que c'est un trouble ? Est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est un spectre ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, j'avoue que quand j'ai commencé à me renseigner par rapport à Asperger, je savais pas trop non plus à quoi m'attendre. Et j'avais lu pas mal de bouquins, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos. Et on définit toujours ça un petit peu comme effectivement un trait, entre guillemets, de personnalité que tu as. C'est de l'hypersensibilité, ça c'est sûr, t'es à nu. Ça peut frôler une forme de dépression par moment quand tu ne sais pas très bien gérer certaines situations ou autres. Mais je pense que c'est beaucoup d'hypersensibilité, donc c'est ce qui qualifie un petit peu tes qualités. qualités et tes défauts.
C'est ce qui les atténue ou les exacerbe ?
C'est pas que ça va les atténuer ou quoi que ce soit, c'est que effectivement tu vas te prendre plus à cœur des choses qu'on va te dire, tu vas interpréter beaucoup plus certaines situations, tu vois. C'est aussi des angoisses quand t'es dans la foule, tu vois, avec certains types de foule. Quand j'étais plus jeune, tu sais, faire des concerts, c'était très brutal pour moi parce que t'es entouré de monde, t'as le contact physique, tu vois, qui peut être dérangeant. Je sais que dans la vie de tous les jours, si quelqu'un me suit trop près ou marche trop près de moi, ça a tendance à m'angoisser et à me rendre agressif. Je déteste avoir la sensation d'avoir quelqu'un qui est proche de moi, alors que bah t'es bien obligé d'évoluer dans une ville. Et typiquement, tu vois, me retrouver dans une soirée où je connais 2 personnes sur 80, ça va être source de problème pour moi. C'est pas de la timidité, c'est juste que t'as une forme de stress quand t'es entouré de gens, le regard, devoir parler constamment avec des gens. Même quand c'est des gens que tu connais, tu vois, il y a des moments quand t'as moins d'énergie, devoir donner le change, comme on dit, de t'intéresser, de discuter, que la discussion soit équitable, c'est plus dur. Et tu rentres un petit peu dans une sorte d'introspection, ça peut être compliqué dans certains jours, tu vois. Il y avait une sorte de vidéo qui tournait pas mal sur Instagram que je trouvais très vrai, où tu vois un mec en soirée, tu vois, t'entends la foule dans l'appartement et tout, et puis il rentre dans la salle de bain en rigolant, il claque la porte, et puis il se tient les deux mains contre le lavabo en respirant, et vraiment... Et puis il y retourne, tu vois. Et c'est vraiment ça. T'as des moments, tu sais, tu t'absentes 2 secondes juste pour prendre le temps de respirer, refaire un point, et bim, tu repars, tu vois. Dans un contexte où il y a du monde, c'est vraiment comme ça. Et donc voilà, donc je pense que c'est pas que ça amplifie, c'est que dans des situations qui peuvent être très simples pour certaines personnes, peuvent être particulièrement compliquées pour des gens comme moi, pour des gens qui sont autistes. Parce que l'autisme, enfin Asperger, c'est qu'une petite partie de l'autisme. T'as des gens qui vivent avec l'autisme et c'est quelque chose qui peut être encore plus compliqué. Moi, j'ai une vie classique, tu vois, j'ai plein d'amis, j'ai une famille, j'ai un job dans lequel je considère que je suis très bon, mais je suis conscient que mon attitude par moment peut être déconcertante pour certains.
C'est quoi ton diagnostic précis ?
Bah, faut quand même préciser que je viens d'avoir 34 ans, donc je suis jeune, mais j'ai passé toute cette merveilleuse période qu'est la vingtaine et le début de la trentaine. Et en fait, j'ai souvent vu des psys. C'est comme dit Nekfeu, à 6 ans j'ai vu un psy, à 16 ans j'ai vu un psy, ça, cette chanson-là elle me plaît bien. Et quand j'étais petit, j'ai vu un psy parce que ma mère, elle pensait que j'avais pas d'amis à l'école primaire. Sauf que j'avais plein d'amis en fait, c'est juste que j'en parlais jamais. Donc ma mère s'inquiétait. Moi j'ai aucun souvenir de ça, je te raconte des choses qu'on m'a re-racontées quand j'étais en âge adulte, parce qu'après j'ai posé des questions justement, j'y reviendrai après. Donc elle pensait que j'avais pas d'amis, mon père a dit c'est complètement idiot, il a plein d'amis, donc j'arrêtais ça. Et effectivement ça allait très bien, surtout à 6 ans, tu joues, t'as plein d'amis, t'as juste à marcher dans la cour d'école en disant qui veut être mon ami, t'en as 5 qui suivent et c'est parfait. Après, j'ai vu quelqu'un quand j'ai perdu mon père, qui est décédé quand j'avais 12 ans. Donc là, c'était plus dans une démarche de reconstruction, de préadolescence et l'inquiétude de la famille par rapport au plus jeune, tu vois, qui potentiellement pouvait partir en vrille, ne pas comprendre ce qui lui arrivait. Et après, à 15 ans, c'était là le moment où je pétais un peu un câble, où on est tous adolescents, tu fais des conneries, tu testes un peu tes limites. Après, j'ai revu un psy plus tard quand j'avais une vingtaine d'années parce que j'étais en évolution dans ma sexualité. Et je trouvais ça intéressant de faire un point par rapport à ça. Tu vois, j'ai toujours été familiarisé au psy, donc ça a jamais été un tabou pour moi. Tu vois, j'en parle quand j'ai des amis aujourd'hui qui vont pour la première fois voir un psy, je leur dis écoute, c'est génial, c'est comme si tu prenais un cours sur toi-même, essaye d'en tirer des leçons, essaye de voir ce que ça t'apporte à toi, ce que ça débloque en toi. Donc ça fait 5 ans que je suis à Montréal et au bout d'un an et demi, 2 ans, tu vois, j'ai eu le besoin de revoir quelqu'un, tu vois, parce que justement en arrivant à Montréal, bah quand on te demande quitter, tu parles difficilement de ton travail, tu vois, parce que les gens s'intéressent vraiment à quitter vraiment toi, tu vois. Et moi j'arrivais pas du tout à me définir, tu vois, parce que à part dire j'ai les cheveux longs, j'ai les yeux bleus, je suis grand, j'aime le sport, tu vois, et j'aime la musique, je savais pas quoi dire d'autre, tu vois, c'était je faisais un blocage par rapport à ça. Et ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort en fait d'arriver à Montréal. Et je me souviens avant que je parte, on m'a dit tu pourras être qui tu veux là-bas. Et effectivement, c'est ça. Donc, tu redistribues complètement les cartes pour le meilleur et le pire. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à énormément cogiter. J'étais constamment à devoir rencontrer des gens et à devoir faire mes preuves parce que tu sais, tu pars avec 0 ami ici et t'as bien besoin d'avoir des amis, tu vois, à un moment donné. Donc, il faut réussir à bien te vendre et tout. Et moi, c'était une source de stress, mais très importante pour moi. Alors, heureusement, tu sais, tu picoles un peu, ça va mieux, mais j'aime pas trop piper les dés, comme on dit. Et donc, j'ai commencé à avoir un psy qui m'a fait du bien, tu vois. Donc, il y avait un suivi. Je parlais un peu de tout et de rien, tu vois, parce que j'avais aucune chose à traiter profondément, tu vois, parce que ça soit le décès de mon père ou ma sexualité ou des choses comme ça, tu vois, j'ai aucun problème à en parler et j'ai toujours été très libéré par rapport à ça. Mais je sentais qu'il y avait des trucs en moi qui bloquaient. Peu de temps avant la pandémie, en fait, je m'étais fait quand même un très très bon ami ici. On faisait vraiment tout ensemble, on faisait les 400 coups, tu vois, on se voyait peut-être 3-4 fois par semaine, on allait au sport, on mangeait ensemble, on rigolait, on faisait du vélo et tout. Et c'est la première fois vraiment que j'avais un ami masculin, tu vois, où dans ses yeux, je me sentais normal. Tu vois, sans être, tu sais, trop artiste, trop perché, trop rêveur, si et ça, j'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un de normal à ses yeux et ça me faisait un bien fou, tu vois. Et quand il est parti de Montréal, je me suis vraiment ramassé la gueule, tu vois, parce que j'ai vraiment l'impression que je perdais une béquille. Et j'en ai énormément souffert, tu vois, j'avais plus de repères, plus rien ne me donnait envie et tout, donc c'est là où le psy était encore plus intéressant. Et à ça se rajoute la pandémie, on était tous enfermés chez nous, ça allait de plus en plus mal, j'étais vraiment de plus en plus dark. Et ma psy me dit, c'est quand même dingue, je te sens partir en dépression, là c'est beaucoup plus accru qu'il y a quelques mois et tout. Et elle testait un petit peu mon niveau de dépression, tu sais, elle me faisait des questionnaires et tout, et vraiment j'avais des scores mais bas. Elle me dit, tu mets jamais ton cerveau sur off, on va creuser un peu plus. On va creuser un peu plus, et en fait, tout ce que tu me dis, t'as des éléments, tu vois, l'hypersensibilité, la susceptibilité, les choses comme ça, ce sont des éléments qui me font penser peut-être à des petits troubles mentaux, et là, c'est hors de mon ressort, donc je te suggère de prendre contact avec la clinique pour les maladies mentales, je crois, ou quelque chose comme ça. Et faut savoir qu'au Québec, ou au Canada de manière générale, ils sont meilleurs, largement meilleurs qu'en France pour détecter ça. Et comme on est en période de pandémie, qu'on est tous en télétravail, sur nos ordi et tout, je me dis, bon, ça de plus, ça de moins, autant que je prenne rendez-vous. C'est comme une séance d'une heure et demie où tu racontes ta vie, tu vraiment t'as 2-3 séances où tu discutes comme avec un psy. Et à la fin de ces séances, il te dit si ça vaut le coup de rentrer dans la partie questionnaire pour un petit peu cibler tes troubles. Et voilà, et à ce moment-là, à la fin de ces rencontres virtuelles, il me dit bah écoute, on va passer au questionnaire parce que je pense qu'effectivement t'es sujet à une forme d'autisme, de syndrome d'Asperger, et voilà. Donc parallèlement à ça, moi je m'achète plein de bouquins, parce que je me dis il faut que je fasse mon étude aussi, parce que je voulais justement travailler ça, tu vois, pour avoir toutes les informations. C'est aussi un petit peu un indicateur, tu vois. Et donc j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai surligné, j'ai pris des notes et tout, t'sais, j'étais vraiment comme si je prenais des cours. J'allais, comme on pouvait rien faire, tu vois, j'allais accrocher mon hamac dans un parc de Montréal et je potassais mon bouquin discrètement parce qu'il fallait surtout pas que ça se sache. Et vient la période des questionnaires, tu vois, et là, bah tu remplis les questionnaires. Jusqu'au moment où ce fameux professeur dit, eh bah là, maintenant, il faut que vous choisissiez une amie de votre entourage qui peut témoigner pour vous et qui peut répondre à des questionnaires. Et là, je lui dis, mais ouais, mais j'en ai parlé à personne, et clairement, autant faire un coming out, j'ai aucun problème avec ça, autant rentrer dans une intimité pareille, moyen, quoi. Donc, la personne dont j'étais le plus proche, c'était ma colocataire. Et je lui dis un jour, Pauline, écoute, ça te dit, on va marcher un coup, on faisait souvent ça, on marchait beaucoup tous les deux. Et elle me dit ça va et tout, je dis écoute faut que je te raconte un truc et tout, et je lui raconte toute l'histoire. Elle me dit je pense pas, mais c'est vrai que maintenant que tu t'en parles et tout, c'est vrai que tu t'isoles beaucoup pendant les soirées et tout, mais en même temps t'es bien avec nous, mais écoute je sais pas, mais écoute si ça peut t'aider, moi je veux bien faire les questionnaires, j'en parlerai pas, t'inquiète pas, on peut en parler autant de fois que tu veux et tout. Tu sais, ça change rien. Je dis bah oui je sais que ça change rien et tout, elle me dit ouais ouais mais je sais, je te sers un petit peu, ça change rien entre nous, t'inquiète pas, les gens qui sont autour de toi ce sont des gens sains, ils t'aiment, ils tiennent à toi, tu sais tu peux en parler si t'as besoin et tout. Je dis ouais mais pour le moment je veux juste te le dire à toi, tu vois. Elle a passé les questionnaires et au final nos réponses concordaient, tu vois, mais pas pleinement. Et sur le coup, je me dis ah bah cool, en fait, comme on n'a pas tout à fait les mêmes réponses, c'est que c'est bon, je suis pas forcément Asperger, quoi. Et en fait, le professeur, il me dit, si, en fait, c'est le but, c'est que la vision qu'elle a de toi, c'est juste que tu t'arrives très bien à avoir une attitude sereine quand t'es en groupe, tu le fais très bien. C'est pas pour autant que ton cerveau ne cogite pas à 1000 km/h, tu vois, mais en tout cas, tu gères bien la situation, quoi. La première rencontre, c'était genre fin mars, début avril, et les résultats, c'était mi-juillet, fin juillet, un truc comme ça. Et là, j'étais en France à ce moment-là. Et le mec m'appelle, il n'y avait pas de réseau en plus, j'avais pas le wifi, il m'appelle. Il me dit, bon, bah voilà, je vais t'envoyer tout ton diagnostic. Tout est réglé, je t'ai fait un résumé, ci et ça. Et je dis, mais je suis Asperger ou je suis pas Asperger? Fais, ah ouais, tu l'es complètement. Et puis après, tu sais, il dit, bon, bah, bonnes vacances, hein. Puis il raccroche, et puis t'es là, t'sais, tu lis ton diagnostic sur ordinateur. Il y a un côté où tu lâches prise, où tu dis, bon, bah, voilà. Et puis après, t'es en mode, mais j'en fais quoi avec ça maintenant? Thank you.
façon de présenter les choses qui est déjà extrêmement agréable à écouter parce qu'on voit les choses en même temps que tu les expliques. Par exemple, je te voyais en train de marcher avec Pauline, en train de lui expliquer, écoute, il se passe ça, ça, ça. Puis c'est très linéaire, donc tu vois vraiment la chronologie, donc c'est pour ça que j'osais même pas t'interrompre parce que c'était comme très imbriqué. Mais j'ai trouvé intéressant le fait que tu parles de ton coming out, t'as pas de difficulté à le faire.
Ah, je m'en fous complètement.
Mais ça, justement, c'est comme le tabou. Tu gardes ça bien pour toi et puis tu choisis la personne avec qui tu veux partager ça. Et je trouve ça vraiment intéressant que, en fait, le vrai coming out, ce soit Asperger.
Exact. Le terme coming out, j'ai jamais aimé déjà parce que je considère que personne n'est en droit de juger ta sexualité ou ci ou ça, tu vois. Et par chance, j'ai une famille qui est exceptionnelle par rapport à ça. Et, enfin, exceptionnelle. Ils en ont juste rien à foutre des gens avec qui je couche, tu vois. Et ça a toujours été très sain. Et j'ai eu juste une évolution classique. J'ai eu des relations avec des femmes que j'ai aimées, j'ai des relations avec des hommes que j'ai aimées. C'est pas un problème, pour moi je suis très bien dans mes baskets par rapport à ça, je suis très fier de ce que je suis et tout, et voilà. Mais effectivement, quand tu commences à parler de syndrome, les gens ils te voient comme quelqu'un de bancal. Ils peuvent te voir comme quelqu'un de fragile, ce qui est pas totalement faux, parce que c'est vrai que t'as une forme de fragilité.
Ils voient que ça.
Ils peuvent voir que ça, effectivement. Sauf qu'ils oublient à côté tout ce que tu fais. Et en fait, la transition est toute trouvée, parce que les personnes à qui j'en ai parlé après, j'en ai jamais parlé à ma mère, c'est une autre génération, elle aussi, ça a tendance à la gonfler quand on lui dit « Ah, mon fils est hautement intellectuel et machin et tout », ça la gonfle, elle est prof d'école, elle était professeure d'école. Donc elle a du mal avec ça, encore aujourd'hui, c'est propre à sa génération et je le respecte. Donc je peux gérer ça sans elle. J'en ai parlé à ma sœur qui a fait un refus complet de ça et qui m'a dit « Ah, on est tous hypersensibles, c'est la vie, non, je sais pas qui t'a vu, mais voilà ». Et en fait, en plus, ce qui est dur, c'est que t'as quand même en ce moment une sorte de, je dirais pas que c'est une sorte de mode, mais entre les hyperactifs, les hauts potentiels, en fait on met tellement de mots maintenant sur des troubles, sauf que les gens se font pas diagnostiquer. Et ça, c'est traître, parce que quand on parle vraiment avec un diagnostic qui a eu plusieurs mois, avec des séances de psy qui ont duré des années, avec des évaluations de dépression, des choses comme ça, quand t'arrives et qu'on te dit « Ah, j'ai enfin, entre guillemets, les réponses à des doutes que j'avais, à des questions que j'avais, à de la colère que j'ai en moi et tout, j'ai des réponses », et quand on te dit « Non, mais là, t'es tombé sur un charlatan, quoi ». Bah ouais, c'est une clinique, j'en ai jamais parlé avec elle. Je suis proche de mon frère, mais comme une relation entre deux hommes, tu vois, avec beaucoup de pudeur, tu vois. Il a 9 ans de plus que moi, donc on n'est pas tout à fait de la même génération, mais je l'amuse beaucoup, je le fais rire, donc c'est comme ça qu'on a créé un lien autour de l'humour. Et lui, il a été d'une belle écoute, c'est le seul qui m'a demandé, bah, ça m'intéresserait de lire ton diagnostic, est-ce que ça te dérange de me l'envoyer? Donc je lui ai envoyé. En fait, il garde un œil sur moi, tu vois. Il me surveille de loin, tu sais, il m'écoute, on s'appelle pas souvent, mais quand je suis en France, il m'observe, il me pose des questions, il me surveille, tu vois. Il a une attention toute particulière pour moi que je trouve assez touchante. Donc ça, c'est pour la famille. Après, pour les amis, bah, j'en ai évidemment parlé à mes deux meilleurs amis. Le premier en France, tu vois, c'est un pote à moi de Paris. Et lui, il a été exceptionnel, tu vois, parce qu'il était très touché que je lui en parle. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amour dans sa réaction, en fait. Tu vois, il me montrait en écoutant qu'il me considérait beaucoup. Et ce moment où je lui ai dit, tu vois, je me dis, purée, ce mec-là, mais je l'aime profondément tellement il réagit bien. Mon autre meilleur ami, j'en ai parlé en vacances quand on était à la montagne tous les deux. Il y a un jour, justement, j'ai fait une sorte de crise, j'étais pas bien. Et je me souviens, il dormait, lui, il s'était pas réveillé. Et je suis parti marcher dans les montagnes, mais 3 heures. Et à un moment donné, il m'écrit, il me dit, ah, je suis réveillé, t'es où? Je dis, bah, je suis dans une montagne. Il me dit, mais tu fous quoi dans les montagnes? Donc, je suis redescendu le chercher. Et je dis, ah, ça va pas, je suis en crise là, je suis pas bien et tout. Et de toute façon, faut que je t'en parle et tout. Et je lui ai directement dit, ouais, je me suis fait diagnostiquer Asperger, voilà quoi. Enfin, vraiment, je l'ai pas ménagé. Et on s'est assis et il me dit, ok. Et là aussi, il y a eu une belle écoute. Et ça m'a fait du bien. Et puis lui, dès qu'il voyait que j'étais un petit peu en crise, par moment, il arrivait justement à bien me gérer. Parce qu'il y a des moments où j'avais tendance à paniquer ou à avoir beaucoup de. Tu sais, à m'arrêter de parler complètement, tu vois, parce que j'étais en angoisse. Je te dis ça parce que tous les moments où j'en ai parlé, en fait, ça m'a permis d'évoluer. Quand j'en ai parlé à mon pote de Montréal, justement, tu vois, il m'a directement envoyé des vidéos. Il m'a envoyé une vidéo qui disait « Asperger, c'est à la fois le paradis et l'enfer ». Et c'est vrai que c'est ça, parce qu'il y a des moments, en fait, t'as l'impression que t'es le roi du pétrole, parce que tu te sens hyper bien, tu te sens, je dirais pas original, tu vois, mais tu puisses ta force dans ton originalité, dans ton côté artistique, tu vois. Comme dit Aurel San, avant, je voulais être normal, maintenant, je veux plus être normal, tu vois, je veux être différent des autres, quoi. Et c'est exactement ça, tu vois, tu puisses ta force là-dedans. La dernière personne à qui j'en ai parlé, pour qui ça a vraiment compté, c'est le copain de Pauline, justement, qui vit avec nous, et qui est aussi un très bon ami à moi, que j'estime énormément. Je sais pas, je venais de démissionner, j'avais fait un burn-out avant, je venais de changer de boîte, je venais de lancer mon entreprise, de dépenser des milliers de dollars en graphisme, en logo, et j'en passe, tu vois. Et je lui raconte un peu tout ça, tout ce qu'il savait pas. Parce qu'un mec, il est hyper pragmatique, tu vois, c'est-à-dire que on le chambre par rapport à ça, parce qu'il dit des choses des fois hyper évidentes, mais en fait, il dit les choses essentielles aussi. Et il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, ouais, tu sais, en fait, fait, t'es hyper fort comme mec. Et je dis, mais t'es fou, je suis à plat, là, j'ai plus d'énergie, je me sens faible et tout. Il dit, mais non, t'es hyper fort. T'as perdu ton père très jeune, t'as une sexualité qui t'a peut-être mis des bâtons dans les roues par moment. T'as monté ta boîte, t'as quitté un super boulot à Paris pour justement faire la même chose à Montréal sans avoir la moindre aide et réussir à bâtir tout un catalogue d'artistes tout seul, tu vois. Tes artistes t'adorent et tout. Enfin, tu vois, il m'a dit des choses que je sais, tu vois, mais venant de sa bouche, tu sais, c'était hyper précieux, quoi. Ça m'a enlevé un poids.
Pourquoi maintenant? Pourquoi choisir d'en parler maintenant? Pourquoi choisir d'en parler qui plus est dans un podcast?
Alors déjà, pourquoi j'en parle un peu plus, c'est que... En fait, t'es tellement dans une mini-société à Montréal où tu vois souvent les mêmes personnes et les gens te connaissent de plus en plus. Toutes les soirées que j'ai pu faire avec tous mes potes et tout, des moments je me barrais, ça m'arrivait plein de fois. Mais déjà à Paris, tu vois, il y a plein de fois je disparaissais de soirée, je prenais un Uber, je disparaissais, je prévenais personne, tu vois, parce que juste j'avais plus d'énergie et j'avais décrété que là je partais. Sans dire au revoir, tu vois, j'étais comme ça, je me disais, ah, j'enverrai un message demain. Et je le fais un petit peu ici aussi, tu vois, où j'étais en coloc, on était 5, 6 dans cette maison. Donc il y avait toujours les amis, des amis, des amis, des amis qui venaient. Donc il y avait beaucoup de monde et on passait des super soirées. C'était vraiment une période vraiment extraordinaire. Mais moi, ça me brassait beaucoup d'énergie par moment. Il y a plein de moments, tu vois, où, tu sais, les gens me voyaient, je rigolais, je picolais. Après, je fumais un peu. Déjà, les gens savaient quand je commençais à fumer que j'allais pas tarder à me barrer. Donc ça, c'était assez drôle. Après, je réapparaissais, j'étais en jogging. Je me faisais une tisane. Je disais, ouais, c'est bon, hein, je vous aime, hein, mais là, c'est bon, j'ai fait mon temps, quoi. Et je partais. Et en fait, tout le monde a respecté ça. Sans forcément toujours comprendre, mais ils ont toujours respecté ça. Et donc, je me dis, je suis bien aujourd'hui dans mes baskets. Je suis très fier de ce que j'ai accompli. Et je trouve qu'il y a malheureusement pas assez de témoignages, déjà sur l'autisme, et encore plus sur Asperger. Parce que Asperger, c'est vraiment, je le dis à chaque fois, c'est un portrait. Je veux justement en parler parce que je me dis si une ou deux personnes qui écoutent ce podcast et qui, sans être autiste, sans être Asperger, mais ne serait-ce que être hypersensible ou avoir de l'anxiété sociale, être très réservé, voilà, si ça peut les aider, tu vois, si ça peut leur apporter un soutien, un repère et tout, je trouve ça fantastique, tu vois. Et aujourd'hui, je me sens capable d'en parler, sans problème. Et c'est aussi une façon de remercier les regards bienveillants autour de moi. Et ça, c'est important.
Est-ce que l'écriture, ça t'a... je vais poser une question moins anglais. Quel impact a eu l'écriture dans ton processus d'acceptation de ton diagnostic?
Eh bien, bizarrement, j'ai toujours beaucoup écrit toute ma vie. Quand j'étais petit, j'avais plein de petits cahiers, de journaux intimes et tout. Je me souviens même d'y repenser sur le chemin en venant chez toi. J'avais un journal intime. Je sais pas si tu connaissais ce dessin animé, les Malheurs de Sophie.
Oui.
Voilà. Et je me souviens, on jouait à ça avec mes copains, copines et tout. Et j'avais un petit carnet que j'avais gagné avec une cassette VHS pour les millennials. Et donc, j'écrivais beaucoup dedans. Je racontais ma vie, mes choses et tout. Après, quand j'étais ado, j'écrivais beaucoup de textes de musique parce que je chantais beaucoup. Je composais, j'adorais ça et tout, et du coup j'écrivais des chansons parce que quand t'as 15-16 ans, bah tu veux choper, hein. Non mais en même temps j'écrivais pour moi, tu vois, mais j'écrivais des chansons, donc je les faisais lire à des filles qui me plaisaient et tout, et puis elles me disaient ah c'est fantastique ce que t'as écrit et tout, donc tu te faisais un peu respecter, tu vois, c'était cool. Et puis après j'ai écrit des choses plus tristes, j'ai écrit pour des enterrements, j'ai écrit pour mon père, j'ai écrit pour ma grand-mère qui était la mère de mon père du coup et qui est partie en 2017, tu vois. Ma mère justement qui est prof de français, je dirais pas qu'elle est pas avide de compliments, mais elle a jamais trop voulu nous faire trop de compliments parce qu'elle veut qu'on garde les pieds au sol, tu vois. Mais par contre, elle m'a dit, t'écris très bien. Et j'ai écrit aussi pour des mariages, des choses comme ça. J'ai écrit parce que j'étais le témoin de mon frère et que je voulais faire un beau texte en rapport avec mon père, justement. Et à Montréal, j'ai continué à écrire. Je voulais non pas écrire un livre, mais j'écrivais en fait, je voulais écrire mon histoire. Et donc, j'ai dû écrire, je pense, une trentaine de pages Word, tu vois, différents chapitres. J'ai écrit sur mon travail, j'ai écrit sur ma passion, j'ai écrit sur la colère colère que j'ai en moi que j'explique toujours pas trop. J'ai écrit sur l'amour, sur l'abandon, parce que j'ai un gros problème avec l'abandon. Et en fait, j'ai arrêté d'écrire au moment de la pandémie, parce que je voulais pas parler de la pandémie. Je pensais que ça allait durer 2 semaines, comme 10% des idiots qui pensaient que ça allait durer 2 semaines. Mais voilà, je voulais mettre ça en stand-by, et surtout que moi, j'écrivais que dans les cafés ou dans les parcs. Et je voulais des endroits neutres, en fait, donc j'ai arrêté d'écrire à ce moment-là.
Et c'est pendant la pandémie que, justement, t'as commencé ton cheminement vers ton diagnostic, si je me souviens bien.
Exactement. Et là, encore moins qu'avant, je voulais écrire là-dessus.
Pourquoi ?
Parce que j'ai beaucoup de mal à parler de moi, dit-il en faisant un podcast. Mais initialement, j'ai beaucoup de mal à parler de moi, parce que j'ai beaucoup de pudeur, ou alors je vais le faire très vite. C'est un peu lié à Asperger aussi, c'est que tu mets tellement tes émotions à nu que ça peut être hyper...
Je suis totalement comme ça aussi.
Voilà.
T'as l'impression que les gens te voient nu, littéralement.
Exactement.
En fait. Et t'es là genre, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai dit ça?
Et c'est exactement en fait une phrase que je voulais placer à un moment donné, tu vois, c'est que ce qui définit le mieux Asperger, et je trouve que c'est une très belle phrase, c'est « Nous n'avons pas de peau ou de protection aux émotions, nous sommes exposés, c'est pourquoi nous nous cachons. »
C'est de qui?
Aucune idée. J'ai oublié de noter la source.
C'est pas grave.
J'aime beaucoup cette phrase, donc effectivement, quand tu commences à parler de toi à des gens, t'interprètes leur regard, t'interprètes tout. Tu sais, quand tu parles de toi, tu t'observes tout. L'œil qui part du côté et qui t'écoute pas, tu le vois. Donc tu dis, ok, je suis inintéressant, donc tu synthétises tout ce que tu racontes pour aller le plus vite possible et pour te casser. Je voulais pas parler d'Asperger parce que je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore en situation où je me sentais faible et je voulais pas parler de ça. Je sais pas, je voulais pas me plaindre à moi-même. Alors t'imagines, je voulais pas me saouler moi-même en écrivant, tu vois. Et ça m'arrive plein de fois, des fois je relisais des textes en me disant « purée, mais prends un Lexomil et puis passe à autre chose, quoi, tu vois. » Donc j'étais pas apte à ça. Et maintenant, un peu plus, tu vois, en fait, maintenant que je décante ça, que je suis dans une espèce de processus, en fait, où j'en parle un petit peu plus et je fais ce podcast, tu vois. Bizarrement, c'est drôle parce que c'était mon anniversaire il y a quelques semaines et j'ai un ami à moi qui m'a offert un carnet. Je l'ai gardé, tu vois, je le trimballe partout avec moi. Et je me dis, ok, je suis peut-être prêt à nouveau à écrire. Et peut-être que je suis prêt à parler d'Asperger et de ce portrait qui ne représente qu'une petite partie de ma vie, tu vois.
Est-ce qu'il y a des choses que t'arrives mieux à exprimer à l'écrit, par les mots, qu'à l'oral quand tu parles?
Je pense que l'écrit me permet de trier mes idées. Comme je cogite énormément, que ça part dans tous les sens par moment avec toute l'émotion qui me caractérise, le fait d'écrire et de, entre guillemets, rendre ça un peu solennel, tu vois. C'est-à-dire que je vais mettre dans un café, je vais écouter une playlist particulière, tu vois, qui va soit m'aider à me concentrer, soit m'apporter ce dont j'ai besoin au jour J. Et quand t'écris avec un stylo, tu réfléchis à ce que t'écris avant de l'écrire, tu vois. Donc ça te permet de te concentrer. En plus, moi j'ai des gros problèmes de concentration. Donc justement, le fait d'écrire m'aide à rechercher la concentration. Et le fait de vouloir faire les choses parfaitement, eh ben l'écriture te pousse justement à réfléchir à chaque mot que tu emploies, chaque tournure, sans mentir, parce que je pense qu'on a tous tendance à un peu embellir les choses, tu vois, sans mentir, tu vois, mais à rajouter un peu de contenu. Et l'écriture, tu peux pas, il faut que tu sois honnête.
Qu'est-ce que tu penses que l'écriture va t'aider à comprendre sur Asperger?
Je sais pas, parce que je pense pas que l'écriture va m'aider à comprendre d'autres choses, parce que j'ai tout compris de ce qu'il fallait connaître de ce syndrome. J'ai rien besoin d'apprendre de plus. Je l'assume beaucoup plus maintenant qu'à une période, et je te dis, j'essaie d'en faire une force. Si j'en venais à écrire sur ça, tu vois, ça serait dans une démarche, tu vois, de pas de publication. Mais en tout cas, je le ferais suffisamment bien dans le but que ça intéresse peut-être au moins une ou deux personnes, tu vois. Je le ferais d'abord pour moi parce que ça serait une façon d'exorciser les derniers démons que j'ai en moi, tu vois. Je sais pas, je pense que ça serait une façon de libérer, de clôturer peut-être le chapitre de Montréal aussi, tu vois, parce que je pense qu'à un moment donné, je vais rentrer en France, tu vois, et que Montréal, en plus de m'apporter énormément d'amitié et une jolie carrière, ça a débloqué beaucoup de choses dans mon cerveau, tu vois. Je vais donner un exemple, en fait, quand j'étais plus jeune, on m'a dit « Ah, t'es bizarre, mais dans le sens positif ». Et quand on m'a dit « bizarre », je l'ai pris, mais en pleine tête, tu vois, c'était en mode bim, on m'a foutu 5 étiquettes sur le visage et je trouvais ça d'une violence, tu vois. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis fait tatouer justement au-dessus du genou bizarre et je l'ai barré en pointillé parce que je trouve ça génial d'être bizarre en fait. Parce que bizarre, c'est pas négatif en fait, c'est quand les gens te disent que t'es bizarre, c'est juste que t'es différent de ce que la société attend de toi, t'es différent d'eux et pour moi c'est génial, tu te différencies, la différence c'est fantastique. Thank you.
Est-ce que le fait d'avoir une forme d'autisme, ça débloque certains aspects de ta fibre artistique?
Je pense que cette forme, aussi légère soit-elle, d'autisme, ça te donne une perception très... Moi, je suis très rêveur, hein, je pense à plein de choses. Moi, je suis heureux quand je regarde Harry Potter et quand je lis des romans légers et tout. J'arrive à me créer un univers, tu vois, qui me détend, tu vois. Je pense néanmoins que je suis dans le bon travail pour ça, parce que je travaille tous les jours avec des artistes, donc des gens qui ont à la fois des rêves, de l'ambition, de la créativité, beaucoup d'ego, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, quel qu'ils soient. Et ça, je pense que je suis très bon là-dedans, parce que justement, si je peux éviter 2 secondes de penser à moi et de m'occuper de quelqu'un d'autre, ça me plaît, tu vois. Je pense que ma sensibilité fait que j'arrive à mettre à la place, peut-être trop par moment, mais à la place de certains artistes, tu vois, et de comprendre une douleur ou une anxiété, et de réussir à les guider au mieux pour que ça se débloque, tu vois. Et je vais te dire, je vais te faire une confidence, j'ai bossé un artiste très très important, qui est très connu en France, qui a vendu des millions d'albums, tu vois, qui est un peu plus âgé que moi. Et je me souviens que ses équipes, avant de me l'envoyer à Montréal, m'ont dit « Il est très sensible, autant que toi, donc occupe-toi-en bien. » Et c'est vrai, c'était le cas, tu vois, je voyais que c'était quelqu'un qui donnait très bien le change au niveau des médias et au niveau de son public, et qui en même temps, tu sentais qu'il était pas stressé, tu vois, mais qu'il était un peu dans sa bulle, tu vois, qu'il fallait le ménager. Et j'avais adoré cette personne, voilà.
Ok, belle confidence.
J'ai pas dit qui c'était, mais bon.
Garde le mystère. Tout à l'heure, tu parlais des mauvaises expériences finalement que t'as eues avec certaines personnes à qui tu t'es justement livré sur cette forme d'autisme, et puis que t'as pas eu la bienveillance en fait que tu recherchais. Ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qui te pousse ou non à te livrer sur cette partie de toi à une personne particulière?
Je pense que... Alors je le pensais en tout cas, parce que récemment ça a pas mal changé, mais j'avais toujours la prétention de... penser que je cernais assez bien les gens. C'est-à-dire que, justement, le fait de pas aimer trop parler dans des soirées blindées, ça te permet de cibler des gens, tu vois, du regard, enfin, d'être attiré par des profils, tu vois. Tu les observes et tu vois qu'il y a des choses qui matchent. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré celui dont je parlais tout à l'heure, un de mes meilleurs potes à Montréal, tu vois. On s'est vus en soirée, nos regards sont croisés. Il y a une sorte d'intérêt, tu vois, réciproque. On a parlé de plein de choses et ça a matché comme ça. L'un et l'autre, on a su cerner et sentir qu'il y avait un intérêt amical. Quand tu côtoies des gens, tu sais, tu ouvres ta confiance, mais des fois tu te fais aussi un petit peu pas manipuler, mais après t'as plein de cons partout, tout simplement, tu vois. Mon point, c'est qu'effectivement, j'ai eu une mauvaise expérience des amis à moi que j'aimais beaucoup, que j'ai appris à découvrir ces dernières années, et avec qui j'ai dû vivre à un moment donné, ça s'est hyper mal passé. Et c'est des gens à qui je m'étais confié par rapport à Asperger, mais aussi sur mon hypersensibilité, et aussi sur une période où j'étais un peu en dépression, tu vois. Je me confiais vraiment, tu vois, parce que je me sentais dans une situation de confiance, et ils ont une attitude envers moi que j'ai trouvée très déplacée et très irrespectueuse, et un manque de respect comme rarement j'ai pu voir, tu vois, et ça a été une grosse souffrance, parce que c'est des gens que j'estimais beaucoup, et en qui j'avais confiance, et en fait... Quand je parle d'Asperger, tu vois, j'attends ni de la pitié, ni qu'on soit larmoyant en face de moi, c'est pas du tout le but, tu vois, c'est d'avoir une discussion qui peut intéresser la personne à qui t'en parles, qui te pose éventuellement des questions, donc c'est comme une clé que tu donnes. Tu sais, je suis pas parfait, j'ai des défauts, tu vois, je suis pas simple à vivre, je pense que tous mes colocataires peuvent témoigner des moments où j'ai pu leur rendre la vie pas impossible, mais où j'ai pu être un peu piquant. Mais je m'en suis toujours excusé à ma façon. Et après, je sais que j'ai des qualités humaines aussi. Dans l'amitié, c'est comme ça, tu sais, tu rencontres des gens, ils ont des belles qualités, ils ont les qualités que tu vois en surface, après t'as les qualités profondes et t'as les défauts, tu vois. C'est un package, tu vois, tu aimes ce package, personne n'est parfait. Et le fait qu'on m'ait reproché ces défauts-là à un moment donné, qu'on m'ait reproché mon attitude, je trouvais que c'était une façon d'appuyer sur mes faiblesses, sur le fait que je cogitais énormément. Ça m'a vraiment détruit, parce que c'est des gens que j'estimais beaucoup, et tout ce que j'ai pu entendre, des ragots que j'ai pu entendre sur moi ou des choses comme ça, tu vois, ça m'a vraiment blessé, mais au plus profond de moi, tu vois. Et bon, après tu passes vite à autre chose, tu vois, après tu te...
Non, mais ça fait quand même mal.
Ouais, ça fait mal au ventre, ça fait mal à l'ego, et puis après, bon, ça fait un tri naturel aussi, c'est pas plus mal, hein, tu vois, de faire une petite sélection de gens aussi, c'est pas désagréable. Et des gens, et c'est là où ça peut être un enfer Asperger, c'est que des gens classiques, tu vois, ils vont réussir à passer à autre chose plus facilement, tu vois, plus rapidement. Moi, ça met des mois à décanter, ça met des mois à passer à autre chose, à essayer de comprendre, parce que je réanalyse tout. Je remets en question mon attitude, ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire et tout. Jusqu'à un moment donné où tu te dis, ouais, franchement, j'ai rien fait de grave. Et tout ce qu'on te reproche, on te le reproche sur ta personnalité, sur ce que t'es vraiment au fond de toi, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à leurs yeux, t'as plus la moindre qualité, tu n'es que des défauts.
T'es que un mauvais événement.
Et quand tu vois ça dans le regard de Jean, tu te dis, waouh, j'ai pas mérité ça. Et tu sais, t'as de la peine. Et non, j'ai pas voulu réouvrir cette porte. Moi, quand c'est fini par contre. Quand c'est vraiment ça te blesse pour ce que tu es en tant que personne, bah en fait c'est pas de l'amitié tout simplement, tu vois.
Tu différencies ta personne de ta personne avec Asperger?
Non, pour moi c'est un mélange, tu vois, je suis plein de choses. Asperger, je l'oublie par moments, tu vois, en fait j'y repense quand je me retrouve dans des soirées où il y a trop de monde, où j'étouffe, ou ci ou ça, où il faut parler à des... C'est des gens qui viennent te parler, t'as pas envie de leur parler, ça se voit dans mes yeux que j'ai pas envie de leur parler, et tous mes potes verront dans mes yeux que j'ai pas envie de parler à cette personne, et je pourrais pas tricher, parce que j'arrive pas à tricher par rapport à ça. Mais les trois quarts du temps, à part avoir un peu d'inattention par moment auprès de mes amis, je vais décrocher, tu vois, avec ceux qui me connaissent le mieux, je vais leur dire « Désolé, j'ai décroché, on peut recommencer », et ils respectent ça, tu vois. Mais autrement, non, dans l'essentiel de mes journées, je pense que je suis celui que je suis vraiment, tu vois, tout compris, artistiquement, le rêveur, le sportif, qui aime bien saper, et si et ça, tu vois, mais je ne suis pas ce syndrome, tu vois.
T'es juste toi.
Je suis juste moi. En fait, déjà, j'aime pas la critique positive et j'aime pas la critique négative. La critique positive me met mal à l'aise parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur par moment. Je suis très fier de mon travail, je sais que je suis bon dans ce que je fais, je le dis sans aucune prétention parce que je considère que vraiment j'ai des résultats, tu vois, et les gens de ce métier me disent que je suis efficace dans mon travail. Après, si quelqu'un me dit « Ah, t'es beau », ça met hyper mal à l'aise. Moi, je me cache. J'ai passé toute ma vie à me cacher, moi. J'aime pas les remarques négatives et je suis pas à l'aise avec les compliments.
T'es juste à l'aise avec la vérité.
Bah, avec ma vérité, je pense peut-être, tu vois, je sais pas.
Du moins avec le factuel.
Ouais, je suis à l'aise avec le factuel. Mais quand je te parlais tout à l'heure du copain de Pauline, tu vois, qui me dit des choses hyper factuelles, tu vois, ça me fait du bien parce que, en fait, moi, ça me suffit, tu vois, ça me fait avancer. Si tu commences à me faire trop d'éloges et tout, je vais être hyper mal à l'aise. J'aime pas ça. Tout comme quand on me reproche des choses gratuitement, ça met mal à l'aise aussi, tu vois, parce que je trouve que c'est gratuit, c'est mal amené et ça me donne envie de me cacher, tu vois. Et justement, dans mon physique, je passe mon temps à me cacher. Et là, comme tu me vois devant, tu te dis, c'est pas possible parce qu'on te voit très bien. Mais j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu une frange, tu vois, pour cacher mes yeux, tu vois, pour cacher mon regard ou une lunette de soleil. Là je porte les cheveux très longs depuis des années, tu vois, parce que les cheveux me permettent, quand je les lâche, de me cacher aussi, tu vois. Je mets beaucoup de casquettes, de bob ou de choses comme ça, parce que ça me cache aussi, tu vois, mes lunettes de soleil. Les gens peuvent penser que c'est une sorte de snobisme, tu vois, c'est juste que mon regard est parti dans tous les sens comme ça et ça me rassure.
Pourquoi tu veux te cacher ?
J'ai du mal à appréhender le regard et l'observation des gens sur moi, parce que je vais forcément peut-être mal interpréter. Il y a plus de chances que je te dise qu'une personne me regarde par méchanceté que parce qu'elle a envie de me draguer. Il suffit que je marche avec des potes dans la rue pour que mes potes me disent « Mais tu te fais mater mes puissances 1000 » et moi, je vais plus penser « Ouais, mais je pense qu'il voulait juste me frapper en fait. » Je te jure, c'est vrai. Je dis le regard était insistant, je pense que c'est juste que je le dérangeais parce que j'ai deux doigts qui sont peints au vernis, parce que j'ai les cheveux trop longs, parce que j'ai mes piercings et mes tatouages, je le dérange. Je dis mais non, je pense que tu lui plaisais en fait. Je dis ouais non, vas-y, on arrête d'en parler.
C'est fascinant parce que t'es comme un mélange d'une confiance en toi qui m'a vraiment l'air inébranlable.
Au niveau professionnel, elle l'est.
C'est vraiment juste cet aspect-là.
Je maîtrise assez bien le côté professionnel parce que on m'enlèvera pas 10 ans d'efforts et 10 ans dans ce milieu qui est quand même difficile.
Fait que tu tires ta force de ce qui est factuel.
Mm-hmm.
C'est factuel que t'as construit ta carrière.
J'ai soigné ça. C'était à la base un rêve et j'ai fait mes preuves, j'ai bossé avec des gens extraordinaires. Donc ça, je sais que c'est une véritable force et j'en suis très fier.
Pourquoi est-ce que tu tires pas la même force que tu tires du travail ?
Au niveau personnel ?
Ouais.
Je sais pas. Je sais pas, parce que je pense que c'est un peu mon éducation m'a toujours fait un peu passer pour un enfant fragile, que j'étais pas vraiment à la base, en fait. Je pense que toute cette partie rêverie, fuite dans l'imaginaire et tout, qui est propre à Asperger, tu vois, parce qu'effectivement, la fuite dans l'imaginaire, c'est quand même assez récurrent, son syndrome. Tu sais, le fait de te faire des cabanes, de te protéger toujours, en fait, c'est ce que je te disais, la phrase tout à l'heure, c'est que t'es tellement à nu que... Tu sais, le boulot, c'est le boulot. On est obligé de bosser pour gagner de l'argent, on est obligé d'être performant, on est obligé d'avoir des résultats. Tu sais, on est conditionné dès l'enfance pour être une personne efficace dans le cadre du travail. Donc on est formaté sur ça. On te dit pas comment gérer tes sentiments dans la vie de tous les jours, comment réagir à un regard de travers, à de la haine, à une personne qui t'aimait profondément et qui le lendemain te haït, tu vois. On t'apprend pas à gérer ça. Et encore plus, quand t'es Asperger, on ne t'apprend pas du tout à gérer tout ton cerveau, toute cette analyse que t'as derrière et tout. Quand t'as une personne qui subitement change de visage face à toi, c'est hyper compliqué de gérer ça. En fait, si t'as, admettons, un accrochage avec quelqu'un, toute ton énergie va passer là-dedans et tu vas bâcler tout le reste. Et tout va s'assombrir autour de toi. Tout va être triste, ça va être dur, tu vois. Et ça, c'est... Ça, c'est dans les moments où ça arrive, c'est pas simple. La seule force que je peux mettre en place sur le côté personnel, c'est essayer de décanter le plus rapidement possible des choses qui s'amorcent négatives. C'est de réagir en temps et en heure à des red flags, tout simplement, tu vois, de voir des choses qui commencent à partir en sucette et te dire « Ok, je prends du recul là-dessus rapidement parce que je vais me faire bouffer et si je me fais bouffer, je vais mettre des mois à m'en remettre. »
Est-ce que tu aimes avoir cette forme d'autisme ?
Les moments où ça va pas, tu te dis « J'aimerais que ma vie soit un poil plus simple. » Parce que tu te poserais moins de questions sur tes relations amoureuses, tu serais pas dans une suranalyse. Donc c'est sûr que je pense que le fait que je sois seul aujourd'hui et pas dans une relation amoureuse, c'est en partie dû au fait que j'analyse beaucoup les choses et peut-être trop en amont. Je travaille là-dessus. Néanmoins, en fait, d'un côté, j'en suis fier, tu vois, parce que comme c'est lié à un aspect artistique et que j'ai toujours voulu et j'ai toujours été assez artistique, et que je cherchais entre guillemets ma voix, tu vois, parce que j'ai fait du piano, j'ai fait du chant, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de choses, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma place par rapport à ça, tu vois, qui est de gérer justement des vrais artistes, tu vois, des gens qui vivent de ça. Là, j'ai ma place et je me dis que Asperger, ça peut être un don et que je vais essayer de faire en sorte que ça soit plus l'enfer, mais que ça soit que le paradis.
Merci infiniment Elio d'être venu sur ce podcast parler d'Asperger. C'était vraiment une très belle conversation.
Et ben c'était partagé, c'était très intéressant.
Je vais te laisser avoir le mot de la fin. Et par mot de la fin, j'entends un seul mot qui peut ou non avoir un lien avec ce dont on vient de se parler.
Aimer.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce 31e épisode d'Univers Alternatif sur le syndrome d'Asperger. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Eldon, Pink et Wild Capster. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans 2 semaines avec un épisode sur le BookTube.